Il est 9h presque 28 minutes dans notre série, n'est-ce pas, d'entrevues qu'on fait comme ça en période estivale avec des politiciens. On essaie de leur parler d'autre chose que de la politique parce qu'on aimerait ça les connaître un peu mieux finalement, savoir qui sont ces gens-là en dehors, n'est-ce pas, de leur fonction publique. Alors on a choisi aujourd'hui de parler avec Christian Dubé qui est ministre de la Santé et des Services sociaux, nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux. Bonjour M. Dubé.
Oui, bonjour, M. Lacroix.
Mais juste avant, je peux pas ben m'empêcher de vous poser la question. Je sais qu'on va pas se poser, mais on va le faire pareil. Parce que vous faites un point de presse aujourd'hui avec M. Arruda à 13h. Vous inquiétez, vous aussi. Pardon?
Allez-y.
Oui, non, j'ai entendu une voix. Donc, à 13h aujourd'hui, vous vous inquiétez aussi là de voir qu'il n'y a pas tout le monde qui respecte les mesures de distanciation puis les mesures sanitaires, n'est-ce pas?
Ben écoutez, on l'a vu en fin de semaine là qu'il y a eu des soit dans les Laurentides et particulièrement sur la rive sud, en Montérégie, oui. Dans certains bars, que les règles ont pas été suivies, puis ça nous inquiète. Alors on fera le point ce midi avec Dr. Arruda.
Bon, pour inviter les gens, bien sûr, à respecter les règles minimales.
Ben, tout le travail qui a été fait dans les 4 derniers mois par l'ensemble de la population, on peut pas accepter que tout ce travail-là, tout cet effort-là qui a été fait dans le déconfinement, qui a été fait pour que les gens ont fait des sacrifices énormes au niveau économique, au niveau de leur famille, ben, on ne peut pas accepter que quelques individus puissent venir détruire tout ça. Donc, on va faire le point là-dessus.
D'accord. Bon, entrons dans le sujet qui fait en sorte qu'on vous a invité aujourd'hui. On va essayer de vous connaître un peu plus, M. Dubé. Vous avez un profil économique. On dit que vous êtes dans l'entourage immédiat de M. Legault, dans l'équipe économique avec Pierre Fitzgibbon, avec Éric Girard, avec M. Legault lui-même, tout ça. Qu'est-ce qui vous a attiré en politique, vous qui avez été longtemps dans le milieu des affaires puis occupé des postes importants dans le milieu des affaires?
Mais je pense que dans le travail que j'ai toujours fait, on oublie souvent M. Jean Goulet, puis j'aimerais le mentionner parce que dans l'équipe, on avait Jean Goulet au niveau du ministère du Travail, puis oui. Souvent on ne le mentionne pas, puis je veux le dire parce qu'il a fait à date un travail, surtout avec les normes de retour au travail, je le mentionne, qu'il a fait un boulot extraordinaire aussi dans cette équipe-là. Qu'est-ce qui m'a poussé à avoir le goût d'être en politique? Je vous dirais que c'est principalement ce qui m'a toujours poussé dans ma carrière de gestion. Je me suis toujours considéré comme un agent de changement. Moi, ce que j'aime faire, c'est arriver devant une situation complexe, un cas de souvent ce qu'on peut appeler soit de redressement d'entreprise ou de situation qui a besoin d'être améliorée. Moi, je me vois comme un agent de changement. Identifier qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'entreprise ou l'organisation fonctionne mieux. Alors, vous pouvez faire facilement le lien avec la politique, dans le sens que lorsque j'ai eu la chance de rencontrer M. Legault en 2012, j'arrivais justement d'Europe, où j'avais été demandé par Cascade, là, j'étais là pendant à peu près 5 ans,
ouais.
de trouver des solutions à une situation assez complexe où l'entreprise vivait des difficultés en Europe de rentabilité. Il y avait toutes sortes de problèmes et j'avais à peu près terminé mon mandat. Et c'est là que M. Legault m'a demandé si je pouvais faire le saut en politique. Et je fais beaucoup de rapprochements entre la gestion du changement qu'on doit faire au gouvernement versus ce que j'ai fait peut-être pendant plus de 30 ans là, dans un contexte d'entreprise et d'organisation.
Mais est-ce que vous vous considérez comme étant un redresseur d'entreprise?
Non, parce que je dirais que je suis plus un agent de changement. Parce que un redresseur, c'est... Bon, là, je ne veux pas être trop technique. C'est plus dans des situations de faillite ou de difficultés très grandes.
Ouais.
Moi, ce que j'aime, c'est, puis c'est pas le cas du gouvernement et c'est pas le cas des entreprises dans lesquelles, la plupart desquelles j'ai travaillé, c'est beaucoup plus où il y a un besoin souvent d'un changement de culture. Puis un changement de culture, ben ça se fait beaucoup avec les communications. Donc, c'est plus du côté de l'agent de changement que de redresseur comme tel.
OK. Mais vous aviez tenté l'expérience politique. On s'en souviendra, vous aviez été élu. D'abord, vous étiez dans l'opposition. Vous aviez quitté, vous avez été nommé à la Caisse de dépôt comme premier vice-président. Qu'est-ce qui vous avait amené à quitter la politique cette première fois-là? On s'était parlé à l'époque. Vous sembliez un peu désillusionné sur le pouvoir que vous aviez dans l'opposition.
Ben écoutez, c'est très clair, M. Lacroix, que quand je suis comme tout le monde, là, quand on va en politique, c'est parce qu'on veut avoir un certain impact. Puis je vous le dis, là, je voulais être capable de faire des changements. Bon, mais dans l'opposition, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et je me souviens très bien que dans le premier mandat que j'avais fait, là, qui a duré à peu près 18 mois,
Ouais.
sous le règne de Mme Marois, l'opposition, elle avait pas mal de puissance parce que c'était un gouvernement minoritaire, vous en souvenez. Puis on était capable de faire changer certaines choses. Je me rappelle de certains débats en chambre avec, dans ce temps-là, le ministre des Finances de l'époque. On était capable de faire changer des choses parce que c'était un gouvernement minoritaire. Moi, j'avais déposé en 2014, juste avant les élections, un document d'une soixantaine de pages où j'expliquais les changements qu'on voulait voir au gouvernement. Puis je vous dirais avec beaucoup d'humilité que le gouvernement qui a été élu, donc un gouvernement majoritaire libéral en 2014, a clairement dit au bout de 2 ou 3 mois, c'est le plan qu'on va appliquer.
Ouais.
Alors moi, là, je regardais ça, puis je me disais, bon, je vais être 4 ans à regarder les autres faire ce que moi je voulais faire. Alors c'est sûr que j'ai eu à ce moment-là, puis je me trouve privilégié, j'ai eu une offre de Michael Sabia qui m'a demandé de justement venir faire un changement important à la Caisse pour sa politique d'investissement au Québec. Alors, je pouvais difficilement refuser cette offre-là que j'ai
Ouais.
acceptée.
Bon, mais vous aviez eu des beaux défis auparavant, là. Vous avez été dans des postes importants, entre autres, chez Cascade, chez Domtar aussi, dans d'autres entreprises. Est-ce que le milieu privé des affaires vous manque?
Non. Non, parce que, encore une fois, le défi qu'on a en ce moment au gouvernement, pour moi, il est tout aussi important, puis même M. Legault l'a dit récemment, là, et si je pense particulièrement à la santé, c'est vraiment un défi de gestion gigantesque. Il a parlé d'un monstre, là. On va essayer de dompter le monstre, mais je vous dirais que l'ampleur du défi que l'on a au gouvernement en ce moment, un défi de ressources humaines, un défi de système informatique, un défi de toutes sortes de
Ouais.
communications avec nos employés, pour moi, il est aussi grand, même plus grand que dans certaines entreprises où j'ai travaillé.
Est-ce que vous avez une déception par rapport au projet de loi 61?
Oui, écoutez, on
Parce
a
qu'on vous
fait
avait
ce.
senti un peu aigri là, quand ça n'a pas passé, là, puis
Ben, écoutez, un agent de changement qui essaye de faire des changements puis que ça fonctionne pas, ça va pas très bien. Je pense que la commande était très grande de faire ça en fin de session, en acceptant que les changements qu'on demandait étaient très grands, en acceptant qu'il n'y aurait pas de bâillon, donc on n'avait aucun levier sur l'opposition.
Ouais.
Je pense qu'on a, je l'ai dit clairement, vous en souvenez, je prends certains torts. On a voulu faire les choses rapidement, mais il nous restait 2 semaines quand on a déposé le projet de loi. Et comme on n'avait pas de mesure de bâillon, on avait bien dit qu'on ne le ferait pas, ben ça nous a limités dans les choses qu'on pouvait faire. D'ailleurs, ce que je suis pas déçu, puis même content, c'est d'avoir peut-être un peu trop tard, mais l'appui qu'on a eu de toutes les municipalités du Québec qui disaient
Ouais.
c'est la bonne chose, donc reprenez-vous. Puis moi, je suis certain que Mme Lebel va faire un très, très bon travail à l'automne pour représenter le projet.
Bon. On fait quoi quand on est ministre d'un ministère aussi important? Là, tout à l'heure, on parlait avec Dan Bigras, puis bon, il y a des gens qui disent, mais c'est pas normal que le premier ministre prenne des vacances, tout ça. À un moment donné, je pense que les décideurs qui ont des postes importants comme ça doivent un peu prendre des vacances. Faites quoi, vous, pour vous changer d'idée, M. Dubé? Parce que c'est accaparant le métier de politicien.
Ben, j'ai réussi, je pense, dans les boulots, les fonctions que j'ai eues dans les dernières années, d'essayer de trouver cet équilibre-là de vacances, de décrocher au moins une journée du week-end, d'être capable d'avoir une certaine régularité. Je dois dire que je suis comblé au niveau familial, là. J'ai la même conjointe qui m'endure depuis plus de 25 ans. Ça, je peux vous dire que ça aide beaucoup. Elle tient le fort dans le sens que elle me tient responsable de mon agenda. Quand elle me dit, j'aimerais ça que tu sois là, j'aimerais ça qu'on ait une activité. Je vous donne l'exemple, ce week-end, pour la première fois, là, on avait nos 3 enfants qui étaient là avec ma fille et ses 2 petites filles que j'avais pas vues depuis 4 mois.
Ouais.
Ben ça, pour moi, là, je peux vous dire que le téléphone il est resté de côté, puis c'est seulement quand tout le monde est parti que j'ai repris mon téléphone. Et je pense qu'il faut, puis tous les gens qui passent par la politique, puis je vais vous dire, c'est la même chose dans ceux qui ont des emplois qui sont prenants en termes de gestion, c'est d'avoir un respect pour la famille.
Mm-hmm.
Puis moi, je vous dirais que je suis chanceux d'avoir cet environnement-là, puis de pouvoir compter sur ma conjointe, mais aussi pour mes enfants qui m'en redonnent beaucoup. Ça fait partie de...
Ouais. Mais vous aviez fait même de votre résidence secondaire, qui est en Estrie, une espèce de refuge pour la famille à un moment donné, hein? L'espèce de lieu de ralliement, si on veut.
Oui, on appelle ça notre ancre. C'est là qu'on se retrouve, même pendant qu'on était partis en Europe, ma conjointe et moi, là, comme j'ai dit, on avait gardé cette propriété-là parce que c'est vraiment là où les enfants se retrouvent. Les enfants y allaient pendant qu'on n'était pas là. Moi, je suis un adepte du vélo.
Oui.
J'ai besoin de faire du vélo parce que j'ai pas une taille naturellement petite. Alors, j'ai besoin de passer mes verres de vin à quelque part. Donc,
c'est un prétexte pour prendre du vin, c'est ça votre affaire?
Ben oui, c'est comme ça que je me convainc de monter quelques côtes de plus. ça permet d'avoir droit au vin supplémentaire, alors c'est ça. Mais je suis un adepte de vélo, puis comme vous savez, ben, l'Estrie, c'est un bel endroit pour ça. Et là, on a essayé récemment de se diriger vers l'autonomie alimentaire. Et j'ai des poules. J'ai acheté quelques poules et j'ai mes petites filles qui sont venues voir ça ce week-end. C'était vraiment agréable.
Oui, mais attends un peu. Là, combien de poules, là? C'est-tu un élevage ou c'est...
Non, riez pas. Là, c'est juste vous et moi. Là. On est quatre.
Ah, oh, mon Dieu!
Et j'ai eu deux œufs depuis deux semaines. Alors, c'est une grande production.
Mais faites-vous en pas pour votre tour d'Ontario avec deux œufs en deux semaines. Il n'y a aucun danger, vous êtes correct.
Non, mais on m'a dit qu'il était encore jeune, mes poules. Alors, donc, je vais être patient.
D'accord. Vous aviez un vignoble à un certain moment donné également sur vos terres. Est-ce que vous faites toujours du vin?
Sur la même propriété, on a planté une quinzaine d'années des vignes. Et on a une bleuetière, on avait les deux, mais on n'a plus la vigne. On a décidé il y a quelques années d'enlever la vigne parce que c'était, bon, beaucoup de travail. Comme je vous dis, j'étais en Europe, c'était un peu compliqué.
Oui.
Alors, on a décidé de garder seulement le bleuet, qui est un fruit qui est beaucoup plus facile à cultiver que la vigne avec toutes ses complications. Alors, comme on dit, là, je l'ai fait, je l'ai essayé, puis maintenant... C'est les poules et les bleuets. Voilà.
OK. Vous avez réalisé que vous n'étiez pas capable de faire du vin à votre goût, fait que vous avez décidé de vous tourner vers les œufs.
Oui, je pense que la SAQ, il y a des très, très bons vignerons, comme vous savez, en Estrie,
oui.
Particulièrement dans la région de Donham. Alors, je leur laisse le soin de continuer dans ce domaine-là.
Vous voyez où, M. Dubé, dans quelques années, à la fin de... Parce que, bon, évidemment, vous êtes encore jeune, là. Surtout pour un politicien, on dirait que les carrières de politicien, c'est quand même... Ça peut se prolonger dans le temps. Vous voyez où, dans votre carrière comme politicien? Est-ce que vous aimeriez aller plus loin que ministre de la Santé? Est-ce qu'éventuellement, diriger un parti politique, ça vous intéresserait?
Non. Je vais vous dire, je profite beaucoup en ce moment de cette opportunité-là que le premier ministre m'a donné, dans les... Je trouve que c'est court parce qu'on a quand même... Il nous reste deux ans là, pour la prochaine élection. Alors donc, je vais vous dire, là, avant de penser à plus loin, je vais surtout m'assurer qu'on va livrer une bonne partie de la marchandise, les engagements qu'on a faits. Moi, si je peux faire un parallèle, j'ai plus un défi, je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière, c'est de préparer la relève. J'ai toujours pensé qu'un bon gestionnaire doit s'assurer qu'il monte une équipe forte pour l'aider à réaliser le mandat, mais qu'en même temps, un de ses objectifs, c'est de préparer les prochaines personnes. Puis je l'ai fait dans plusieurs cas, là, que ce soit avec Cascade, que ce soit avec l'Europe, que ce soit avec la Caisse de dépôt. Quand j'étais chez Domtar, je prends toujours un grand plaisir à voir que les gens avec qui je travaillais sont capables de prendre ma place et de continuer. Alors donc, ce que je vous dirais, ma vision des prochaines années en politique, puis on a une belle relève avec notre gouvernement, il y a plusieurs jeunes députés, il y a plusieurs jeunes ministres. Je pense que mon objectif dans les deux prochaines années, là, c'est non seulement de faire les changements qu'il faut en santé, mais de préparer une équipe de relève.
M. Monsieur Dubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été très agréable de vous parler autrement. Et puis, on va vous écouter à 13h aujourd'hui lors de votre point de presse. Merci d'avoir été avec nous.